TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme cette semaine. Et aujourd'hui, nous recevons un couple d'évangélistes, Franck et Liliana Alexandre.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci. Ouais,
donc on est vraiment heureuse avec Anne et Mathilde de pouvoir vous recevoir.
Bonjour à vous.
Je vais passer cette semaine avec vous. Je crois qu'on va passer des bons moments ensemble.
On est content d'être là, content d'être avec vous.
Ah super, Liliana aussi.
Ah très contente.
Mais on est heureuse particulièrement pour vous, Liliana, parce que c'est aussi une première de faire des émissions.
Tout à fait.
Et alors on a vraiment hâte de découvrir votre parcours, d'en savoir un peu plus sur vous. Et puis pour commencer, je vais juste vous laisser vous présenter parce que ça fait 30 ans que vous êtes mariés et 30 ans que vous êtes dans le ministère. Félicitations.
Merci. Bravo. Tout le monde peut applaudir, merci.
On applaudit derrière mais on n'entend pas, vous savez, la caméra.
Oui, ça fait 30 ans, en fait, aussi nos 30 ans de mariage. Donc, on est très heureux de le fêter ici au Québec dans le cadre de l'émission aussi. Mmh. On va passer quelques temps aussi à Montréal et on est vraiment très réjouis. On a commencé comme pasteur, on a connu le ministère pastoral, mais tout a démarré aussi dans le pastorat, mais dans l'implantation. Donc, comme pionnier avec mon épouse, pendant 5 années, dans le département de l'Aube, donc en France, dans une petite ville qui s'appelle Romilly-sur-Seine. Donc, on a vécu 5 ans, vraiment, de travail, d'arrache-pied pour implanter une église. Et, on est entré dans le travail de quelqu'un qui avait déjà démarré, mais nous sommes le premier couple pastoral qui s'est vraiment installé sur la ville et qui a permis tout ce début. Donc, c'était pour nous une merveilleuse école. Puis ensuite, on a repris l'église mère. Puisque le pasteur, lui, est parti comme missionnaire. Et à partir de là, on a eu la charge du pasteur, mais on était déjà invité dans l'évangélisation. Et puis, il a fallu après se libérer de charge d'église pour entrer pleinement et à plein temps dans l'évangélisation internationale. Et le Seigneur nous a conduits dans pas loin de 50 pays pour prêcher l'évangile.
Waouh, wow, gloire à Dieu.
On aime la vie que nous vivons, pas simplement le voyage, parce que je suis pas tellement voyageur finalement, mais ce qu'on aime, c'est prêcher l'évangile, parce que des vies se sont changées.
Et vous avez fondé le ministère Gospel Vision International.
Ouais,
et vous êtes basé à Troyes depuis maintenant pas mal de temps.
Depuis 1994
pour Troyes.
Voilà, parce qu'on a eu cet intermède de 5 années. En 88, on arrive à Troyes, mais ensuite on part 5 ans pour implanter l'église. Et en 94, on revient.
Ah ok, voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Parole de Femme. Tout est possible.
J'ai une vie palpitante.
Mais oui, après avoir parcouru le monde, annoncé l'évangile à des milliers de personnes, vous vous retrouvez enfin dans Parole de Femme.
Enfin. Donc, je ne tremble pas devant 50 000 personnes, mais au milieu de 4 femmes, là, je tremble. J'espère que je vais survivre.
Mais non, on va te mettre à l'aise.
Ça va bien se passer.
Pensez à moi, à prier pour moi. Là, vous êtes.
Au moment où il regarde, c'est peut-être un peu trop tard. Donc, on va passer toute cette semaine à parler des femmes, puisque vous aviez à cœur de parler de votre parcours, de votre parcours particulièrement. Liliana, honneur aux dames, c'est le nom que le pasteur Franck a voulu donner à cette série.
Tout à fait merveilleux.
Donc, honneur aux dames.
Je voulais tout de suite, je voulais pas être en conflit avec vous. Je pense que j'ai dit avec un titre comme ça.
Quel agent de paix.
je vais être bien accueilli.
Donc on va commencer avec un premier portrait qu'on va faire cette semaine, c'est la femme de valeur ou la femme vertueuse. Ouais. Alors profitez, vous avez 2 minutes pour parler. Après c'est Liliana.
Oups, ça va. Je prends ma respiration et j'y vais. La vertu, une femme vertueuse. Quand on parle de la vertu, on parle d'une force morale. Et ce qui m'a impressionné chez la femme et chez mon épouse, de manière beaucoup plus personnelle, c'est vraiment sa force morale. Et je vais l'honorer en lisant un chapitre, une partie du chapitre de Proverbes 31, parce que c'est son chapitre préféré. Et elle lui correspond tellement, et elle correspond à vous toutes qui êtes ici. Et je pense à la plupart de celles qui nous regardent. Je crois qu'elles se retrouvent dans certains passages de Proverbes 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous dites pas amen?
Après, plus loin.
Il va falloir digérer chaque verset. Là, c'est la femme. Là, j'ai noté dans ma Bible bienveillance. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien. Moi, je dis amen. Je suis d'accord. Et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Donc c'est une femme entreprenante et elle est audacieuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ensuite, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes.
C'est vraiment... Amen, on dit oui. Amen.
C'est une maîtresse de maison. Elle pense à un champ, regardez ça, et elle l'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Donc, elle est investisseur, elle est capable d'investir, elle est capable de multiplier, capable de développer. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit et elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. C'est vraiment une femme courageuse, une femme d'action. Et puis elle tend la main au malheureux, une femme de compassion. Elle tend la main à l'indigent. Et ensuite, c'est une femme prévoyante. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Et là, on est au Québec, on sait de quoi on parle. Elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. C'est vraiment un témoignage. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. C'est une femme qui fait aussi parfois du business. On a des femmes qui sont des commerçantes, qui travaillent sur les marchés. On en connaît pas mal. Qui sont des femmes aussi, des femmes d'affaires. Vraiment, c'est une femme qui est revêtue de force. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Wow. Elle est pleine d'assurance, elle est bien dans sa peau. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Donc elle est sage, elle est mesurée, j'arrive à la fin. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ouais.
Ça c'est votre partie, hein. Ça c'est votre travail. Mm-hmm.
Voilà.
En fait, donc, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a un petit... On a un petit passif avec la femme vertueuse, mais il y a quelques semaines, on s'est quand même réconcilié avec elle.
Alléluia.
Parce que nous avons compris que c'est une femme qui a appris et puis qu'elle a pas 20 ans non plus sûrement, puisque ses enfants parlent, elle a des servantes, ça veut dire qu'elle a une maison, ça veut dire que bon, voilà. Donc on s'est quand même réconcilié. Donc les filles, vous pouvez sourire.
Voilà.
Avec la femme vertueuse.
C'est vraiment un modèle à suivre. C'est un modèle, c'est une source d'inspiration pour toutes les femmes.
Et vous reconnaissez votre femme, non?
Oui.
Dans ce passage.
Oui, vraiment. Vraiment, c'est pourquoi je suis fier. Je suis fier de mon épouse. Et je crois que bien des maris, c'est important que nous soyons fiers de notre épouse lorsqu'elle est non seulement engagée avec le Seigneur, mais aussi impliquée dans le monde séculier.
Mm-hmm.
Parce qu'elle est, c'est aussi comme une couronne, c'est ce que dit la Bible. C'est vraiment une couronne pour nous, les hommes. Et c'est important qu'un homme soit fier de sa femme et qu'une femme rende son mari aussi fier d'elle.
Mm-hmm.
Parce que ça permet aussi un plein épanouissement à l'intérieur du couple.
Mmh, ouais. Totalement. Et est-ce qu'il y a des situations particulières où vous êtes dit, waouh, ma femme, elle assure quand même?
Oui, quand elle a mis au monde les enfants.
Dans la douleur.
Moi, j'étais impressionné. Oui, elle m'a toujours impressionné. Surtout quand j'ai répondu à des directions divines et qu'on nous en avons parlé ensemble, nous avons prié pour rechercher aussi un accord commun, une confirmation, un assentiment, un accord intérieur. Ça, c'est extrêmement important. Et quand elle m'a dit, bien, on y va, je te suis. D'ailleurs, je serai jamais parti sans elle. Parce que quand on s'unit ensemble, c'est pour vivre cette glorieuse aventure avec Dieu tous ensemble. Donc là, elle m'a toujours impressionné lorsqu'elle a discerné aussi que c'était la direction de Dieu et lorsqu'elle était prête à vivre avec moi ses aventures avec Dieu. Mmh. Aussi, bien sûr, quand elle a mis au monde ses enfants, moi, pour un homme, c'est vraiment bouleversant, c'est choquant. On en voit beaucoup qui tombent dans les salles d'accouchement. Hein. Moi, je suis resté debout, j'étais très fasciné par tout ce à quoi j'ai assisté. C'était vraiment quelque... Mais là, il y a eu une fierté immense dans mon cœur. Lorsque j'ai vu que ce petit bout de femme était là, prête à traverser ce genre de situation, c'est vraiment... Ça vous rend tellement fier.
Ah, waouh. Un mouchoir, Liliana?
J'ai pas mis de mouchoir dans ma Bible, là.
Et vous, comment vous l'avez vécu, justement? On a parlé au tout début de l'émission de l'implantation d'église. Vous êtes entrée dans le ministère, ça a été quand même assez sur les chapeaux de roue. Mmh. Est-ce que ça a été une épreuve de force?
Oui, ça a été très, très vite, très, très vite. Très, très vite, je me suis posé la question, comment je peux aider mon mari? Et quand vous êtes dans des situations où vous voyez que votre époux travaille beaucoup, donc lui il travaillait parce que bon, à l'époque, après je me suis retrouvée enceinte de notre premier enfant, donc je ne pouvais pas travailler. Donc Franck travaillait beaucoup, il devait préparer les messages, il devait faire les visites pour développer cette œuvre. Et je le voyais, le soir, il rentrait à la maison, mais il était épuisé. Mmh. Et je me suis dit, mais comment moi, en tant qu'épouse, je peux aider mon conjoint? Et je me suis dit, ben, quand l'enfant viendra au monde, il faut que je trouve un travail, que je libère mon époux de son emploi et que moi, j'aille travailler à plein temps.
Mmh. Oui, parce que dans une œuvre pionnière...
Il n'y a pas d'argent pour payer le ministère. Il n'y a pas d'argent. Voilà.
Enfin, il y en avait quelques-uns. Il y avait 14 adultes. Il fallait développer tout cela.
Exactement. Et les...
Ah, ok. Donc, vous cumuliez un travail. Voilà,
je travaillais très tôt le matin. Et puis, très tôt le matin pour me libérer dans la journée, faire des visites et les réunions très tard le soir. Et voilà.
Donc, ces journées étaient très, très longues. Donc, le soir, il était épuisé. Et donc, j'ai vite réalisé que si moi, de mon côté, je ne faisais pas le nécessaire pour aider mon conjoint, je pense qu'à un moment donné, bon, chaque humain a ses limites. Mm-hmm. Et je pense qu'il serait arrivé aussi lui-même à ses propres limites. Et je pense qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait si moi, de mon côté, je ne l'aurais pas épaulé. Et donc, Jordan avait 2 mois et demi quand j'ai commencé à écrire un peu des courriers à droite à gauche. Et... tous ces CV que j'ai pu envoyer sont revenus négatifs. Et là, je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment que je trouve cet emploi. Il faut que je libère mon mari. Fais quelque chose. Et j'ai commencé à écrire un courrier. Et sur ce courrier, sur l'enveloppe, je commence à mettre l'adresse centre hospitalier. Et au lieu d'écrire centre hospitalier, j'écris centre commercial. Ah, je dis, ah non, pas le centre commercial. Je prends l'enveloppe, je la déchire et je la jette. Je prends une deuxième enveloppe, une troisième enveloppe, une quatrième, et j'écris toujours « centre commercial ». Je dis « mais c'est pas possible, Seigneur, je ne veux pas aller au centre commercial ». Je dis « non, je veux pas être dans ce lieu ». Et à un moment donné, vous dites « bah, écoute, 4 enveloppes à la poubelle, bon, allez, la cinquième, l'envoies ». Je me suis dit, bientôt, je n'aurai plus d'enveloppe. C'est ça. Et j'ai envoyé ce courrier au centre commercial. Et c'est le seul qui a répondu.
Wow, Dieu savait. Hein.
Voilà. Alors, ça n'a pas été très facile pour moi, parce que du coup, c'était mon premier emploi. J'étais toute jeune, j'avais à peine 20 ans.
Oh. Premier emploi, premier
emploi. Voilà. Oui. Et je me rends au rendez-vous. Je m'assois devant le directeur et ce directeur me dit que c'était juste pour faire un remplacement d'une femme qui avait pris un congé parental. Je lui dis, pas de problème. Et puis, il me demande ma carte de sécurité sociale pour remplir le dossier. Et moi, j'y suis allée, les mains dans la poche. Je ne savais pas comment il fallait se présenter. Toute jeune, je connaissais rien au monde du travail. Ah, il me dit, mais pour remplir le dossier, madame, il me faut vos numéros. Vous inquiétez pas, monsieur, je le connais par cœur. Et le numéro de sécurité sociale, je lui débite très rapidement. Et là, il me regarde, il me dit, oh, mais madame, tout doucement, qui dit, j'arrive pas à vous suivre. Et il a vu que j'avais une faculté pour retenir les chiffres. Et il m'a mis en tant que caissière, parce qu'il fallait connaître pas mal de codes. Et c'est comme ça que j'ai eu cet emploi. Et en fin de compte, je n'ai pas fait un remplacement, j'ai été embauchée. Okay. Donc, j'ai pu travailler à plein temps, ce qui fait que Franck a pu quitter son emploi et a pu développer l'œuvre beaucoup plus facilement, a pu faire beaucoup plus de visites et vraiment prendre soin de ce petit troupeau qui était là et pour pouvoir avancer.
Et vous étiez reconnaissante envers votre femme faire ce sacrifice?
Mais dès le départ, c'était on renonce aussi, quand on est pionnier, on renonce aussi à tout un plan de carrière. Moi, j'avais entamé un process de formation commerciale. Mmh. Et puis, Dieu nous appelle au ministère. Bon, j'avais aussi été avec ma maman dans l'occultisme. Je devais aussi travailler dans son cabinet de consultation. Je me convertis, plus de cabinet de consultation, moi, plus d'occultisme. Donc, cette perspective-là se ferme. Je devais être champion de karaté, faire aussi un diplôme d'éducateur sportif pour ce genre de travail. Je peux plus me battre, c'est fini. Donc toutes les portes professionnelles se ferment.
Mais je pense que vous avez oublié un plan de carrière, peut-être. L'imitation. on n'en parle pas.
Alors, c'est vrai que j'ai failli faire imitateur. J'imitais 110 personnes. Et il y avait un impresario qui a voulu s'occuper de moi. Il m'a emmené à Paris. Et puis, en m'emmenant...
Ça a quand même été loin.
Ouais, il m'a emmené à Paris. Et puis, dans la voiture, il a commencé à mettre ses mains sur ma jambe. Et là, j'ai su que ça serait pas mon métier.
Ah d'accord. Oh.
Voilà, j'ai dit donc c'est pas ma vocation non plus là, donc j'ai compris que c'était
une vocation de plus qui partait.
Voilà.
Ah oui, non. Dieu vous a fermé tout ça. Chac.
Alors en fait après c'était pionnier, mais quand on démarre à l'implantation d'église, faut trouver le boulot qui se présente en fait. Donc moi c'était dans l'entretien, le ménage, le matin très tôt, et puis Liliana avec ses petits courriers. Et on dit, Seigneur, ben nous, on veut bien bâtir une église, mais il faut qu'on mange, il faut qu'on vive dignement, décemment. Et puis, il y a le bébé qui arrive au milieu de tout ça. Et puis, il faut faire regarder même le petit. Il faut trouver une solution même pour le bébé.
Donc, la question s'est posée. Jordan, il faut le faire regarder. Et mon cœur de maman, c'est vrai que je voulais vraiment servir Dieu pour aider mon conjoint. Mais mon rôle de maman était vraiment important aussi pour moi. Je suis italienne, donc les mamas... Les bébés, c'est quelque chose. Et là, je me suis dit, Seigneur, ok, tu m'as donné un travail. Super, merci Seigneur. Mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose maintenant pour mon enfant. Il faut que quand je sois sur mon lieu de travail, je ne pense pas à Jordan. Mmh. Sinon, je n'arriverai jamais à tenir. Mmh. Et il y avait un couple dans l'église qui avait 8 enfants. Et ce couple avait reçu dans leur cœur de me garder Jordan.
Bah oui, en plus un mois à 8.
Et pourtant, c'est du travail. C'est du travail. Parce que Jordan n'avait quand même que 2 mois et demi. Wow. Donc c'est un petit bout de chou.
Ouais, c'est vrai. C'est ce que
doivent accueillir, qui demande quand même beaucoup. Et quand ils sont venus me voir pour me dire, voilà Liliana, nous avons reçu à cœur de garder Jordan. Mais quel soulagement pour moi. Mm-hmm. Parce que je connaissais cette famille. Et je me suis dit, mais c'est génial pour Jordan. Il va se retrouver avec 8 frères et sœurs. Il va jouer. Il va être dans une maison. Il y a du terrain. Il va pouvoir courir.
À 2 mois et demi, ouais.
C'est ah, mais j'ai vu l'avenir parce que je me suis dit, c'est il va rester un bon moment.
Femme,
donc,
femme de vision.
Ils l'ont gardé déjà.
Ils l'ont gardé 3 ans et demi quand même. Hein.
Ouais.
Donc,
jusqu'à l'école.
Oui, oui, oui. Donc pour moi, ça a été vraiment une bénédiction parce que ce couple, je veux vraiment les mettre aussi à l'honneur, mm-hmm. parce qu'ils ne m'ont jamais rien demandé. Mm-hmm. Jamais, jamais. Ça a été vraiment le 9e enfant de cette mm-hmm. famille. D'ailleurs, pour Jordan, c'est tonton et tata, c'est ses frères et sœurs. Et quand il s'est marié, il les a même pris comme témoins. Il voulait vraiment les avoir à son côté, à ses côtés. Donc c'était vraiment pour lui très important. On voit comment Jordan a été aussi impacté et béni avec ce couple. Mm-hmm. Donc pour moi, ça a été vraiment une bénédiction parce que j'ai pu travailler, mais vraiment, je pensais pas à lui, hein. Désolée. J'étais tellement bien, j'étais tellement en sécurité que je pouvais faire mon travail, mais vraiment librement.
Ouais, il les considère même comme ses frères et sœurs. Quand il en parle, ça a tellement marqué aussi.
Ses frères et sœurs de cœur, voilà, c'est vraiment ce qu'il ressent pour eux.
Mais c'est magnifique, vos témoignages, parce que ça fait juste prouver que quand Dieu appelle, oui. Dieu a fermé beaucoup de portes pour vous, oui. mais Dieu a vraiment tracé le chemin. Il vous a appelé, il avait préparé à l'avance, et vous avez vraiment pu goûter à la bonté, à la fidélité de Dieu dans tout ça. Même votre cœur de mère a pu être en paix. Moi, je crois que je suis une maman authentique, et je comprends quand vous parlez de votre bébé. Donc, c'est merveilleux. Puis, c'est vraiment un témoignage pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que dans les moindres détails, Dieu se soucie de tout. Ouais. Dieu se soucie de tout, et Dieu vous a même donné un travail auquel, je pense, vous aviez de l'aisance, et Dieu a pu pourvoir vraiment que vous puissiez être propulsé dans votre appel également. Donc, vous avez été une aide formidable. Je suis certaine que vous en êtes encore aujourd'hui. Merci. Je rends gloire à Dieu pour ça.
Merci.
Est-ce que vous soupçonniez autant de force chez votre femme, ou c'est quelque chose que vous avez découvert au fur et à mesure du temps et des épreuves aussi?
Ben, disons qu'au travers de la vie et des épreuves, chacun se révèle. Mais j'étais dès le départ convaincu du fait que le fait qu'elle soit avec moi, c'était vraiment ma femme. Mm-hmm. Ça, on a eu des signes très forts de la part de Dieu à ce sujet-là. Dès que je me suis converti, que j'ai rendu témoignage dans tout le quartier où j'avais tous mes amis. Il y avait un quartier italien où j'avais la plupart de mes amis qui faisaient du karaté avec moi dans la cité. Donc, j'y avais tous mes meilleurs amis. Dès que je me suis converti, c'est là que j'ai rendu témoignage. Et j'ai parlé à des jeunes, ça les intéressait pas. Puis j'ai parlé à Liliana et elle a commencé à venir aux réunions. Et puis au fil des mois, on a compris, qu'on a senti qu'il y avait quelque chose vraiment qui se construisait entre nous. Puis on a prié pour des confirmations. On a vraiment reçu des confirmations aussi d'être ensemble et de servir ensemble. Et pour nous, pour moi, je crois qu'il y a eu un moment fort parce qu'on a eu des tâches séculières. C'est quand aussi elle a pu, quand nous sommes revenus sur Troyes et qu'elle a pu travailler aussi pour la mairie ensuite. Et après suivre une formation qui lui a permis d'être à plein temps dans notre ministère. Parce qu'on a vécu aussi des étapes, on a créé le ministère en 1997, une association. En 2004, j'ai pu être aussi salarié de cette association. On a commencé aussi à avoir une secrétaire qui est venue travailler avec nous. Puis Liliana a pu aussi entrer à plein temps dans le ministère et être ensemble tous les jours au bureau. Et elle est devenue responsable aussi d'une maison d'édition. Donc là, c'était aussi quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas.
Ouais, et vous l'avez vécu comment alors ?
Alors je l'ai vécu tout simplement, je voyais les besoins de l'association. Et ce qui est encore miraculeux, c'est qu'à travers cet emploi que j'avais à la mairie, cette formation me permettait d'avoir 300 heures que je pouvais utiliser comme je voulais pour me former dans n'importe quel métier. Oh, et quand j'ai vu les besoins de l'association, je me suis dit, ben, t'as 300 heures.
Qu'est-ce que tu pourrais faire?
Et donc, j'ai rempli un dossier que j'ai transmis à la mairie, parce qu'il fallait, après l'accord du maire, pour faire cette formation. Et j'ai été faire une formation sur la petite comptabilité. Et pendant 4 mois, en plus de mon travail à la mairie, j'allais faire cette formation pendant 4 mois pour avoir ce diplôme. Et pouvoir intégrer par la suite l'association. Voilà.
Donc. Et c'est vrai que souvent au début, parce que vous parlez d'implantation, d'œuvre, d'être des pionniers, et particulièrement, je pense aux femmes, aux jeunes femmes qui commencent à servir le Seigneur avec leur mari. C'est important d'être multitâche, Anne, parce que toi aussi, t'as jonglé avec beaucoup de tâches au début du ministère.
Quand on rentre dans le ministère, il faut vraiment être prêt à tout faire et puis à être comme un couteau suisse. Hein, c'est le ministère.
Pas facile quand on vient du Berrichon.
C'est vrai que dans le Berry, on n'a que des couteaux simples. Mais ouais, il faut être un vrai couteau suisse dans le ministère. Il faut être prêt à tout. Et puis Dieu nous donne les capacités. Même des choses qu'on n'a jamais touchées auparavant, mais Dieu nous donne la capacité.
On trouve à tout faire.
Et c'est là qu'on voit que c'est pas les talents naturels qui sont importants. C'est vraiment ce que Dieu met en nous. Et puis, il place devant nous des situations auxquelles il faut qu'on fasse face. Et puis, on n'a pas le choix. Il faut s'y atteler parce que si c'est pas nous qui allons le faire, personne va le faire. Donc, oui, le ministère, c'est quelque chose qui est très stimulant parce que ça nous provoque un peu, ça nous pousse. Ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire.
C'est clair. Ouais.
Et puis, il faut vraiment, c'est ce que dit l'Ecclésiaste, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ben, dans le ministère, c'est ça. Et surtout quand on est pionnier dans une petite église, il y a tellement de choses à faire différentes et on n'est pas aidé, on est tout seul. Donc, on n'a pas le choix, il faut s'y mettre. Puis, s'il faut se mettre à la musique, on s'y met. S'il faut se mettre au secrétariat, on s'y met. Il faut apprendre à faire marcher une imprimante, on s'y met. On apprend plein de choses. On apprend à faire du chantier, faire des rénovations. Nous, on a fait du plâtre, de la peinture, de la menuiserie. On a tout fait. De la cuisine, du chant, on a tout fait, tout.
Les enfants, les ados, les visites à l'hôpital.
Tout ce qui concerne la vie de l'église, on le fait. Puis
le
c'est
stand
bon.
Biblique.
Tout. Ça nous provoque vraiment, ça nous pousse. Et puis, tant mieux.
Parce on touche à tout.
On devient des gens vraiment multifonctions.
Et on le fait même si ce n'est pas notre appel ultime, on le fait parce que le besoin est là.
C'est servir.
Évidemment, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait preuve de force, de courage. Et je pense que c'est ça, il y a des choses, une force surnaturelle qui vient en nous quand on est des pionniers, quand on démarre une œuvre. Parce que souvent, on est avec notre époux la seule personne, les seules personnes à soutenir. Là,
cet esprit-là, ça nous a préparé pour la création d'œuvres ensuite. Oui. Cette œuvre pionnière a modelé notre esprit pour avoir un esprit pionnier.
Mais c'est formateur.
Et quand tu vois, je veux dire, quand on regarde l'apôtre Paul avec tous les talents qu'il avait, c'était un grand érudit, c'était un grand intellectuel qui avait des connaissances, un cerveau à 6 étages. Pourtant, il fabriquait des tentes quand il était pionnier dans le ministère. Je pense qu'il faut pas être, comme on dit au Québec, dédaigneux. Il faut pas
être regardant.
Pas être regardant. Il faut être prêt à retrousser ses manches. Et puis, on est des servantes et des serviteurs. Donc, ce qu'il faut faire, on le fait. Même si on a un cerveau à 6 étages, et s'il faut faire de la menuiserie ou s'il faut faire du plâtre, on le fait.
C'est pour ça que les couples qui démarrent, on les encourage. Quand on rencontre des couples qui démarrent des missions, des œuvres, on comprend ce qu'ils vivent et on les encourage aussi parce qu'on sait que parfois le poids de la responsabilité, du défi, ça résonne jusqu'à l'intérieur de la maison.
Il y a un danger quand les gens sont appelés puis ils se disent ben moi je suis appelé à ça donc je fais pas le reste. Un grand danger parce qu'on arrive à cet objectif là en faisant le reste. Et le reste nous prépare et nous structure et nous construit. Donc il faut jamais dédaigner ce qui se présente sous nos mains quand on commence.
Sois fidèle dans les petites choses.
Et Dieu est honoré par notre attitude de cœur plus que par, j'allais dire, la noblesse de nos accomplissements.
Ouais, faut être humble, je pense, dans tout ça.
Et Nia, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on finisse cette émission? Vous avez peut-être encore une petite dernière histoire pour nous.
Oui, rapidement. Je voudrais vraiment encourager les sœurs à se dire quel est le besoin pour mon époux, pour que le ministère puisse aller de l'avant. Posez-vous toujours cette question. Quel est le besoin? Quels sont les besoins auxquels je dois pallier pour que mon époux soit soulagé de certaines tâches? C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'est pas capable. Mm-hmm. On est capable de beaucoup de choses et des fois on peut être surprise de ce qu'on peut être capable de faire. Ouais. Si votre enfant il est en danger, vous êtes capable de tout pour aller l'aider.
Ouais.
Et je me dis, mais pour mon enfant, je suis capable de faire tout et pour l'œuvre, je ne serais pas capable. Non. Il faut vous dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il faut prier vraiment pour que Dieu vous montre dans quelle situation vous devez vraiment vous trouver pour être un vase utile.
Exactement.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Liliana. On va continuer avec vous demain. Vous allez revenir, c'est bon? Vous l'avez bien vécu?
Je sens que ça va, tout se passe bien.
Ça va, je
j'ai survécu.
Vous avez survécu.
Les dames sont très gentilles.
Et demain, on va découvrir plus votre place, Liliana, au sein du ministère de Gospel.
Vision internationale.
Voilà, exactement. On va découvrir comment vous fonctionnez ensemble, comment vous avez trouvé votre place et comment vous êtes aussi épanouis. On a eu déjà les premières étapes du ministère, mais on va voir comment vous fonctionnez à l'heure actuelle et comment vous avez réussi à trouver votre équilibre. Je trouve ça vraiment très intéressant et très inspirant. Et puis, je suis sûre que vous aurez encore plein de belles anecdotes et de belles histoires de vie à nous raconter demain. Et donc, Pasteur Alexandre, on va vous retrouver puisque vous êtes d'accord. C'est formidable. Je serai là présent rendez-vous. Un 51e pays quasiment.
Ouais, hein. Ouais, là, c'est une terre à conquérir là.
Une terre.
Nous sommes des pionniers ici.
Donc chez vous, vous gardez Pasteur Franck Alexandre dans vos prières pour qu'il puisse aller jusqu'à la fin de la semaine avec nous. On vous dit merci à tous les deux. Merci. Puis on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.